Vous écoutez On lit pour vous.
Marie-Blanche Rémillard a voulu montrer qu'elle avait quelque chose à dire elle aussi. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad numéro 170, été 2026. Marie-Blanche Rémillard soufflera l'an prochain les 50 bougies de sa lésion médulaire. À 75 ans, l'ancienne présidente du conseil d'administration de Mémo Québec a appris à vivre avec sa lésion et regarde en arrière, non sans une certaine nostalgie, mais aussi avec beaucoup de compassion. Quand on regarde une photo de soi, qu'on se souvient des événements, c'est un peu comme si on était à la fois une autre personne et aussi terriblement la même, décrit-elle. Quand elle pense à toutes les belles choses qu'elle aimait avant l'accident, elle se souvient de la lecture, du grec ancien, du latin, de l'art. Quant aux activités physiques qu'elle a faites, comme traverser le Grand Canyon à pied, elle se souvient de grandes difficultés pour remonter le canyon. Aujourd'hui, l'ascension du Machu Picchu me semble impossible alors qu'à l'époque, c'était un objectif envisageable. J'étais libre de sauter, de patiner, de danser, se rappelle Marie-Blanche, sans amertume dans la voix, mais plutôt avec joie, comme si elle évoquait une folle extravagance. Son sentiment est aujourd'hui ambivalent. « Quand je vois les gens danser, je suis à la fois fascinée et ça me brise le cœur en même temps. Alors, je m'imagine dans un élan. Mon cœur et même mes bras se soulèvent. » Jeune, il n'y a aucune limitation. L'accident de Marie-Blanche lui étant arrivé dans la vingtaine, à l'époque, elle ne pensait qu'à toutes les choses qu'elle pourrait faire sans aucun esprit de limitation. C'est vrai que l'accident a réduit mes capacités, mais pas complètement la portée des choses que je pouvais faire. Je pensais avoir tout le temps possible pour rêver. J'imaginais un potentiel de liberté sans contrainte, comme de ne pas travailler. Mais bien sûr, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, explique-t-elle. Marie-Blanche a, au contraire de ce qu'elle pensait, occupé de nombreux emplois dans sa vie. Son premier emploi a été celui d'organisatrice communautaire. Puis, elle est devenue conseillère en emploi avant de travailler pour le gouvernement. Elle a aussi beaucoup milité pour la défense des personnes en situation de handicap. Après son accident, en 1977, elle s'est inscrite à l'Université Concordia en arts visuels, université qui était réputée être la plus accessible. L'étudiante se souvient avoir cependant vécu quelques déboires. Se retrouver coincée dans les toilettes du campus à 21h sans être capable de sortir. « J'ai ressenti de l'angoisse et de la colère », se souvient-elle. Sa lutte pour le transport adapté. C'est alors que la jeune militante s'est mise à recruter les autres personnes qui utilisaient le transport adapté avec elle pour monter une association d'étudiants de l'Université Concordia. Ils étaient environ 5 à ce moment-là. Sa vision était que si elle utilisait sa voix pour militer, elle obtiendrait plus de respect de la part des autres. C'était plus facile de m'exprimer pour la raison d'être d'une association étudiante pour les personnes en situation de handicap que de parler des choses difficiles dans ma vie et de mon propre malaise, raconte Marie-Blanche qui s'est découvert un don d'éloquence pour s'exprimer sur n'importe quel sujet. Elle se souvient qu'à l'université, beaucoup de gens la regardaient, une femme seule en fauteuil. Les gens devaient penser que j'avais l'air sympa, mais que s'ils me parlaient, j'allais leur demander n'importe quel service. Je ne me pensais pas pourtant dans le besoin, explique-t-elle. Pour éviter ce genre de malentendu, Marie-Blanche pensait qu'elle devait montrer qu'elle était indépendante, se déplacer rapidement, ouvrir la porte avant que les autres le fassent pour elle, réagir, être présente, poser des questions, se montrer dynamique. Elle voulait montrer qu'elle avait quelque chose à dire, elle aussi, lever la tête. Offrir sa voix pour convaincre. En matière de défense des droits, Marie-Blanche ne croit pas au miracle. Elle a créé et milité pour le regroupement des usagers du transport adapté, le RUT à Montréal, avec Pierre-Yves Lévesque. Elle a ainsi rencontré un ministre, passé des entrevues à la télévision. Elle a fait beaucoup de représentations. Elle a aimé offrir sa voix pour les autres et convaincre que les changements réalisés pour les personnes en situation de handicap servaient aussi au bien-être de la communauté en général. mais sa vision reste qu'en matière de droits des personnes en situation de handicap, comme beaucoup de droits des minorités, ces dernières, citation, restent à la merci de gens bienveillants qui leur donnent certains droits. Fin de citation. Elle n'a jamais pensé que c'était gagné, mais quand c'est le cas, comme lors de la suppression de la pénalité discriminatoire à la rente de retraite à laquelle elle ne croyait plus, son cœur se remplit de reconnaissance. Marie-Blanche poursuit en affirmant que le transport adapté est un luxe dans la société qui pourrait être retiré si les fonds gouvernementaux viennent à manquer, si la société se désorganise ou encore si elle perd ses ressources. Des droits à protéger. Les droits ne sont pas des fondements, mais quelque chose à protéger. Je considère que la société n'a aucune obligation vis-à-vis de moi. Mais je compte beaucoup sur les jeunes qui trouvent que les personnes en situation de handicap sont cool, qu'on fait des choses, qu'on a des choses à dire, déclare-t-elle. Marie-Blanche a vu de nombreux changements dans la société au fil des années. Un changement qui l'a marqué a été l'accessibilité des trottoirs. Au début des années 1980, elle était désormais capable de faire le trajet depuis son domicile, rue Marquette à Montréal, au centre Lucie Bruneau. Elle sortait davantage et plus souvent seule, au lieu de devoir se faire pousser par sa sœur ou son conjoint pour sauter les chaînes de trottoir. La septuagénaire se souvient aussi de l'adoption de la loi exigeant de rendre les bâtiments construits après 1976 accessibles aux fauteuils roulants. C'était de plus en plus agréable de se promener toute seule. Je voyais des gens en fauteuil motorisé qui s'en donnaient à cœur joie. On sentait un vent de liberté, raconte Marie-Blanche avec enthousiasme. Désormais, la part au plaisir. Depuis ce temps, après avoir travaillé comme fonctionnaire et s'être engagée toute sa vie, Marie-Blanche aspire à davantage de détente, à conserver son énergie pour des activités plaisantes. Elle a quitté son poste de présidente du conseil d'administration de Mémo Québec, part en croisière et se consacre au dessin qu'elle a étudié à l'université, aux casse-têtes, aux énigmes. « Quand je dessine, j'ai pleinement l'impression d'être moi-même », sourit-elle. C'était Marie-Blanche Rémillard a voulu montrer qu'elle avait quelque chose à dire elle aussi. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Les libraires craquent, littérature québécoise, 13 suggestions de lecture des libraires indépendants parues le 10 juin 2026 dans la revue Les libraires. 1. Un verglas nommé Simone, par Léo Jacob, chez VLD Éditeur, 198 pages. Une recommandation d'Anthony Lacroix, librairie boutique Vénus. Que feriez-vous si, en pleine situation de fin du monde, vous étiez témoin d'une injustice rageante? Est-ce que vous vous laisseriez couler, de peur d'être abandonné à vous-même dans l'apocalypse, ou bien serreriez-vous le poing autour du manche de votre marteau et défendriez les plus faibles, par exemple un bébé de 6 mois laissé dans ses langes? Si vous choisissez la deuxième option, c'est que vous êtes faite du même bois qu'Alaric Longuetté, un héros de rien, mais un sauveur de tout ce qui peut l'être. Ce premier roman du mystérieux Rimouskois Léo Jacob annonce un talent d'une grande puissance. 2. La sélection naturelle, par Patrick Nicole, aux éditions Le Cartanier, 216 pages. Une recommandation de Léonie Boudreau, librairie Les Deux Sœurs de Sherbrooke. La grande force de Patrick Nicole réside dans sa capacité à rendre le pathétique intéressant et attachant. Dans cette intrigue, on suit Christian, retraité depuis peu, un alcoolique déboussolé par sa soudaine liberté. Alors qu'il a du mal à se retrouver dans cette nouvelle vie, un événement chamboule tout et il se voit basculer dans une quête qui le fait enfin sentir un peu vivant. L'auteur nous offre ici un roman avec beaucoup plus d'action qu'à son habitude, mais on renoue avec sa plume drôle, sensible et cynique. Le personnage nous propose son introspection, mais aussi des questionnements de société. On dirait que chaque livre de l'écrivain devient mon préféré et celui-ci ne fait pas exception. 3. La lenteur des ombres, par François Kierney, paru chez Hurlante Éditrice, 312 pages. Une recommandation de Shannon Desbiens, librairie Les Bouquinistes de Chicoutimi. À mon avis, François Kierney a atteint le niveau des François Blais, Stéphane Dompierre, Joël Martel et tous ceux qui parviennent à me faire rire très fort avec des phrases bien fignolées, mais surtout empreintes de naïveté. Victor, le protagoniste de cette histoire, arrive à être attachant malgré ses angoisses et ses doutes quant à la probabilité d'être publié. Si, pendant la première partie du roman, ponctué de rencontres avec des gens du milieu du livre et avec une trame sonore éclatée et digne des plus grands mélomanes, on sent que tout s'installe et avance doucement. La seconde nous enlise dans de somptueux malaises qui nous font garder le livre en main jusqu'à la dernière page. J'espère que, comme moi, vous adopterez Victor et sa librairie. 4. Parce que la vie, par Pénélope Jolicoeur, paru aux éditions Libre Expression, 232 pages. Une recommandation de Shannon Desbiens, librairie Les Bouquinistes, de Chicoutimi. Vous cherchez un roman qui va vous faire du bien? C'est celui de Pénélope Jolicoeur qu'il vous faut. Je dois avouer que j'ai ri fort à plusieurs occasions. Et d'un autre côté, les différents protagonistes qui entourent Béatrice arrivent à nous émouvoir malgré leurs travers et petites manies. Celles et ceux qui gravitent autour du milieu du livre y reconnaîtront quelques personnalités marquantes, en bien ou pas, je vous laisse en juger. J'y ai passé un excellent moment et j'ai eu un gros coup de cœur pour la poétesse Hélène, personnage qui au départ s'enlignait pour me taper sur les nerfs, mais qui, à force de la découvrir, m'a beaucoup plu. Bref, je vous garantis une belle expérience de lecture aux côtés de Béatrice. 5. La moyenne des ours, par Jean-Michel David, paru aux éditions Hugo, Québec, 384 pages. Une recommandation de Marianne Roy, de la librairie Boutique Vénus. On suit l'histoire de Jim Stevens, qui vient de décrocher un travail à l'accueil du département de psychiatrie de l'hôpital. Un homme du genre à se laisser porter par les événements, sans réel but dans la vie, et qui se fait séduire par Anne-Marie, femme mariée, assistante sociale et collègue de travail. S'ensuit une histoire d'amour torride, interdite et très déconseillée qui passera par toute une gamme de situations rocambolesques et de rebondissements. Leur relation en dents de scie sera le théâtre dans lequel les lecteurs se gargariseront de ces personnages colorés, de ces déconvenues hilarantes, de ces espoirs de romance qui nous surprennent au détour par leur imprévisibilité à chaque chapitre. 6. Anne s'en va, par Marie Serrois, paru aux éditions Leméac. Une recommandation de Michel Roy, de la librairie Le Fureteur. Anne est une femme âgée qui vit seule. Elle est atteinte d'une maladie auto-immune chronique caractérisée par une inflammation articulaire douloureuse, la polyarthrite rhumatoïde. Malgré la maladie dont les symptômes la font souffrir, elle poursuit ses activités comme écrire, rendre visite à son ex-mari, Émile, atteint de démence, travailler dans les archives d'un hôpital pour enfants, jusqu'au jour où ce n'est plus possible de continuer. Le corps n'en peut plus. Son quotidien est peuplé de souvenirs. Elle pense à ses 4 filles dont une d'elles est en voyage, à la relation avec sa mère, ses frères et sœurs, à la vie d'avant la maladie. Dans ce court premier roman de l'autrice montréalaise, chacun des mots évoque avec intensité le passé et le présent d'Anne. Vous écoutez « Les libraires craquent, Littérature québécoise, 13 suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 10 juin 2026 dans la revue Les Libraires. 7. Inondable, par Marilyn Busque-Dubois, aux éditions Alto, 224 pages. Une recommandation de Véronique Pesant de la librairie La Liberté. Bien que l'autrice relate de manière très touchante les répercussions des inondations de 2023 à Baie-Saint-Paul, c'est un sentiment de symbiose avec la terre qui demeure ancré en moi après ma lecture. Marilyn entretient une conversation avec le monde naturel qui redirige le blâme, loin de la rivière et de la force de son courant, vers la division que notre société moderne cherche à créer avec son environnement. Elle écrit le féminisme dans le cri des outardes et le capitalisme dans les poissons noyés. Elle envie la patience des champignons et la résilience des oiseaux migrateurs, ses amis de longue date. Surtout, elle dépeint le réconfort qui naît de cette certitude que la nature saura se reconstruire sans relâche et que nous sommes nature. 8. Une certaine tristesse, par Mathis Savard-Verhoeven, paru aux éditions La Peuplade, 144 pages. Une recommandation d'Élise Massé de la librairie Le Sentier, Sainte-Adèle. Dans une certaine tristesse, Mathis Savard-Verhoeven donne une voix à Noé, un garçon qui, après une simulation de fusillade à l'école, prend la fuite et choisit l'écriture comme refuge. Dans un carnet offert par sa mère, il revisite le deuil de sa grand-mère, emportée par une crue du Saint-Laurent, et tente de répondre à une question lancinante. Comment ne pas disparaître? Porté par une phrase unique, le récit épouse le flux d'une pensée hypersensible, sans répit. Cette forme audacieuse est la grande force du roman. Elle m'a bouleversé autant par sa lucidité que par l'écho intime qu'elle a fait naître en moi. Un premier roman poignant, aussi maîtrisé que nécessaire. 9. Comment mon père est devenu cascadeur, par Olivier Simard, paru chez VLD Éditeur, 108 pages. Une recommandation d'Élise Massé de la librairie Le Sentier de Sainte-Adèle. Dans « Comment mon père est devenu cascadeur », Olivier Simard met en scène Bobby Bernier, un adolescent dont le quotidien tranquille bascule lorsque son père disparaît soudainement. Entre hockey, premiers émois et liens familiaux, il doit apprivoiser l'incompréhension et redéfinir ce que signifie être courageux. Avec un regard naïf, le roman aborde avec finesse la santé mentale d'un parent, sans jamais sombrer dans le pathos. J'ai tout aimé. La profondeur des personnages, la justesse des réflexions et cette pointe d'humour qui allège le propos. Un court roman d'une redoutable efficacité, qui m'a ému jusqu'aux larmes. 10. La fille au jumpsuit, par Marie-Renée Lavoie, paru aux éditions Urtubise, 272 pages. Une recommandation de Valérie Saumur de la librairie Lulu de Mascouche. Avec son style humoristique, Marie-Renée Lavoie nous offre un nouveau roman qui fait du bien. Sylvaine, la fille sans histoire qui n'a jamais rien à dire parce que sa vie est plate, n'a pas de chum, pas d'enfant, a un travail et un condo beige. Lors d'un 5 à 7 avec ses amis qui ne se passe pas comme prévu, elle se dit que ça suffit, il faut que ça change. Elle fera la rencontre d'un mystérieux sauveur de jumpsuit et elle sera prête à tout pour le retrouver. L'autrice nous offre une belle histoire d'amitié, de famille et de renouveau, avec beaucoup de rebondissements plus fous les uns que les autres. Quand on veut que les choses changent, rien de mieux qu'un bon coup de masse pour tout recommencer. 11. Désert, désir, par Clara Dupuis-Morancy, paru aux éditions du Norrois, 152 pages. Une recommandation d'Olivier Guénette-Rochon de la librairie La Liberté. Dans « Désert et désir », Clara Dupuis-Morancy réside dans l'incertitude, dans les limbes impliquées par l'oxymore du titre de son livre. À la manière d'un flux de conscience, l'autrice y développe sa pensée avec une fluidité poétique où les idées en constante mouvance s'enchaînent pour nous livrer une œuvre à l'originalité enveloppante. Le désir s'insère comme le protagoniste fragmenté du texte, ce dernier jonglant à la fois entre les niveaux de narration, mais également entre différents styles et mises en page, offrant ainsi une expérience de lecture déroutante empreinte de polysémie. L'amour, le vide, le désinvestissement et tant d'autres concepts se côtoient et s'imbriquent pour le partage et la construction de réflexions percutantes. Un incontournable. 12. Aussi étrange que toi, Frida, par Christine Gosselin, paru aux éditions Mémoire d'Encrier, 192 pages. Une recommandation de Jeanne Boivin de la librairie Lulu de Mascouche. Les mots de Christine Gosselin cohabitent en écho avec les voix de femmes inspirantes et marquantes par leur refus de se taire devant l'injustice, telles que Gisèle Pellicot, Greta Thunberg et Nelly Arcan. Accompagnée par les œuvres et les citations de Frida Kahlo, l'autrice traite de la femme infertile, mais aussi de celle qui ne sait pas comment trouver sa place dans un monde où la maternité, comme une évidence, prend toujours autant d'espace dans les discours. Cette pression est abordée avec finesse et sensibilité. L'œuvre permet le rayonnement du grand courage de la peintre mexicaine, de sa résilience et de la célébration de toutes celles qui continuent à foncer malgré la douleur. 13. Le Junk par Arthur Frizeau, paru aux éditions du Boréal, 222 pages. Une recommandation de Karine Guillaume de la librairie Bertrand de Montréal. Beaucoup de style dans cette chronique du naufrage définitif d'une relation père-enfant racontée par le fils aîné. Ça se lit d'une traite, aussi vite que le paternel vide ses bières. Il émane pourtant de ce livre une tristesse abyssale qui semble presque aussi collante et poisseuse que la chaleur tropicale de la ville de Hong Kong, la belle improbable qui lutte ici pour ses droits en même temps qu'elle abrite la déroute solidaire de cette fratrie de jeunes adultes déçus par un père dont personne n'attendait pourtant plus grand-chose. On ne parle pas beaucoup dans ce roman, mais tout est là. La violence, la gêne, la honte, les demi-espoirs fracassés. Et une forme d'amour, malgré tout. Arthur Frizeau a du talent. Et peut-être une addiction au tabac. C'était « Les libraires craquent, littérature québécoise, 13 suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 10 juin 2026 dans la revue « Les libraires ».
Un mâle nécessaire. Un texte de Linda Priestley, paru le 20 mai 2026 dans Bel Âge. Dans un univers où le masculinisme nous met ses gros pectoraux plein la vue, la sensibilité de certains hommes fait rugir les mâles alpha. Tu es sensible, faible, pas un vrai homme. Pourtant, quand on se demande ce que veut dire être un homme fort, je ne sais pas pour vous, mais à mes yeux, ça ne ressemble pas du tout à ces gourous de la virilité qui confondent force et domination. C'est plutôt l'image de mon père qui s'impose. Un homme de simple bon sens, follement amoureux de ma mère et de la vie, et surtout très sensible. Doté d'une grande ouverture d'esprit, il a encouragé ses filles. Dommage, des garçons auraient aussi grandement bénéficié de son influence, à développer leur force intérieure, à respecter leurs prochains et à ne jamais se sentir inférieur aux hommes. À la maison, les tâches se partageaient, du ménage aux rénovations. peu importe la cause, sexisme, racisme, âgisme, les hommes sensibles sont des alliés. Même la science le confirme. Ils sont généralement plus ouverts aux perspectives des femmes et des personnes vulnérables ou marginalisées et plus enclins à adopter des comportements pro-sociaux. Dans la vie concrète, ça se manifeste tous les jours. Ce fils qui accompagne son père atteint d'Alzheimer à ses rendez-vous, semaine après semaine. Ce conjoint qui apprend à prodiguer des soins à domicile. Ce père qui ralentit sa carrière pour être présent. Selon Statistique Canada, près de 42 % des proches aidants au pays sont des hommes, un rôle qui exige patience, empathie et engagement, bien plus qu'autorité ou contrôle. Des figures marquantes. Sur la place publique, aussi, certaines figures prouvent qu'il est possible d'allier force et sensibilité sans écraser les autres. Roméo Dallaire, dont le travail autour des traumatismes de guerre repose sur une profonde compréhension humaine. Gilles Vigneault, dont l'œuvre entière est traversée par une attention à l'identité et à la solidarité. Boucard Diouf, qui aborde environnement, immigration et vivre ensemble avec humour et empathie. Chez certains hommes, la sensibilité est restée longtemps enfouie, mais il y a toujours l'espoir qu'elle fasse surface. Comme le père du journaliste Hugo Meunier, que ce dernier a décrit à l'émission radiophonique L'Agacé, le matin, comme un homme au réflexe d'une autre époque, transformé par l'amour pour son petit-fils, adopté et racisé, une histoire de cheminement qui en dit long sur sa capacité à évoluer. Aujourd'hui, cette sensibilité est plus nécessaire que jamais. Quand une femme dit non et qu'on cherche encore à négocier, quand des matelots sont abandonnés dans le détroit d'Ormuz au nom de la rentabilité, quand des enfants souffrent sur des chantiers de guerre, les hommes et les femmes sensibles sont infiniment plus indispensables par leur générosité et leur force tranquille que les gros canons, les gigantesques comptes bancaires, les tyrans assoiffés de pouvoir ou les grandes gueules prêtes à tout pour dominer. Dans la vie ou sur une île déserte où rôdent mille dangers, je sais avec qui je veux faire équipe. Et vous? C'était « Un mâle nécessaire », un texte de Linda Priestley, paru le 20 mai 2026 dans Bel Âge.